Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il n'est pas chez nous, il est à Brest. C'est comme ça. J'aurais aimé prendre Maradona, mais il est mort.
J'ai été frappé de voir que 99% des collaborateurs du club étaient marseillais. Et ça, ça va pas.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
21h01 exactement, vous êtes sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit. Le drôle de dame qui, comme chaque lundi maintenant, sont là depuis 20h et ce, jusqu'à 22h. On était en train d'évoquer la crise du côté de Manchester United. Julien, on parlait notamment du cas Cristiano Ronaldo, alors qui a fait beaucoup parler durant l'été. Il va rester ou il va pas rester là? Il y a une info de Sky Sports hier qui disait en gros, soit il change de comportement, soit ils vont carrément le résilier. Tu le disais tout à l'heure, une autre info qui est sortie également, comme quoi il mangeait tout seul à la cantine. C'est quoi la tendance là? Il reste encore 15 jours avant la fin du mercato.
Voilà, ce soir, ils disent qu'ils veulent le garder encore, comme ils l'ont dit tout l'été, finalement, qu'il n'était pas à vendre, qu'ils comptaient sur lui, que Ten Hag en avait besoin. Encore une fois, je trouve que c'est complètement contre-productif parce qu'il n'a pas envie d'être là, il ne veut pas être là. Alors, le problème pour Cristiano, c'est que pour l'instant, personne n'en veut non plus. Donc, moi, je veux bien qu'il quitte le club, mais aujourd'hui, il n'y a personne qui va l'accueillir.
C'est combien son salaire, là, à Manu?
Je crois qu'il est à 25 millions.
Donc, c'est rien, ça. Mais qui va payer ça aujourd'hui?
Non, mais après, je pense qu'il serait prêt. Enfin, je suis sûr qu'il serait prêt à prendre.
Bon, mon polo. Mais ils sont cons, mais pas ce point-là.
Une réduction de salaire, mais c'est un gros problème. Ça reste un gros problème. Alors, c'était pas le seul. Ils ont tous été mauvais samedi, surtout en première période. C'est pas la question. Mais c'est vrai qu'ils cherchent aussi un autre attaquant. On a vu les liens, enfin les rumeurs autour d'Arnautovic qui finalement a été abandonné parce que la rébellion des supporters contre l'arrivée possible d'Arnautovic a été tellement forte que ils ont pris peur au club et qu'ils ont dit bon, on peut pas le faire finalement. Pour Rabiot, c'est différent parce que je pense qu'Adrien va venir. Mais c'est vrai que c'est un gros problème. Et juste pour finir tout ça, parce que j'ai pas fini l'histoire sur les 13,8 km hier dimanche.
Et but de Griezmann, excuse-moi de te couper, très beau but de Griezmann avec sa nouvelle coloration, 3-0 pour l'Atlético. Getafe.
Vas-y, je.
Donc juste pour finir, on a parlé des 13,8 km courus en moins par rapport à Brentford. Donc dimanche hier devait être un jour off pour les joueurs, ils devaient pas aller s'entraîner. Et après l'humiliation, Ten Hag leur a demandé de venir s'entraîner et il les a fait courir. Il leur a fait courir, les 13,8 km qui leur manquaient contre Brentford. Alors je sais pas si c'est la solution, hein, mais voilà, il était tellement fâché qu'il les a fait venir.
Quand ça commence comme ça quand même, Julien, dimanche,
c'est pas bon.
Ça sent mal, ça sent le poisson.
Alors, on sait que il est très à cheval sur la discipline et sur l'autorité. Pour l'instant, il a du mal à la mettre en place. Je sais pas si cette initiative d'hier va améliorer les choses ou pas.
Alors, on rappelle que le Bayern a dit non pour Ronaldo, parce que c'est à peu près le seul, voire le seul club allemand qui pourrait payer son salaire.
Chelsea aussi a dit non, le PSG a dit non, l'Atlético Madrid a dit non.
Il y a quelque chose que je comprends pas. J'ai beaucoup fréquenté Ronaldo, c'est un joueur exceptionnel, fantastique. Mais comment est-ce qu'on peut gérer aussi mal une fin de carrière? C'est-à-dire que tu es le meilleur buteur de l'histoire du plus grand club de l'histoire du football qui s'appelle le Real Madrid. C'est-à-dire que tu es une légende absolue. T'as marqué tellement de buts sur 9 ans que le prochain qui va... Maintenant, Benzema est deuxième, mais l'écart, il est tellement phénoménal que...
Ouais, il le rattrapera difficilement.
Mais c'est fort possible qu'aucun joueur au monde ne marque autant de buts au Real Madrid que l'a fait Cristiano Ronaldo. Et tu négocies avec l'Atlético. Non, mais parce qu'il l'a... Ils se sont pas arrivés à parler de salaire, mais il a été offert à l'Atlético. À tel point que le président...
Il a été offert au Barça aussi.
Aussi. Mais je vais te dire, le Barça, ce serait terrible. Mais l'Atlético, c'est encore pire. Parce que contrairement à ce qu'on croit,
le vrai rival
pour les vrais socios, le truc, c'est l'Atlético. Et comment imaginer, alors que t'es le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, t'as gagné 4 Ligues des Champions avec ce club, t'as gagné plusieurs ballons d'or avec le maillot de ce club.
Après, Fredo, tu sais comment c'est. Tu connais les agents, tu peux aussi le proposer à des clubs histoire de faire monter les enchères.
Non,
après,
c'était pas le cas.
Un tel, t'as vu, je l'ai proposé à machin, ils sont intéressés.
Là, c'était pas le cas. C'est qu'il fallait vraiment trouver une porte de sortie. Et vous imaginez que, à un moment, je sais pas ce qu'en pense Johan, mais il a été proposé, on a parlé de lui à Naples aussi. Ce qui est tellement. Parce que la question, elle est simple. C'est que Ronaldo ne pense plus à sa carrière, à une image, etc. Il pense à ses statistiques et à Messi, au nombre de buts de Messi en Ligue des Champions. Donc il veut absolument marquer en Ligue des Champions, être avec un club en Ligue des Champions pour marquer en Ligue des Champions. Mais c'est terrible d'être comme ça et d'être finalement si mal conseillé. Et je me suis laissé entendre dire, ou plutôt, on m'a dit que même Mendes commence à en avoir un peu marre. Jorge Mendes, son agent historique, en disant que C'est compliqué, quoi. Il a même du mal à le défendre aujourd'hui. Il fait le boulot, il cherche un club, etc. Mais c'est fou d'ailleurs. De toute façon, l'erreur monumentale de Cristiano Ronaldo, c'est d'avoir quitté le Real, en fait. D'avoir quitté le Real parce qu'il avait encore beaucoup de choses à faire ici. Il est parti à la Juve, ça s'est pas bien passé. Au bout de 2 mois, il regrettait déjà d'être parti là-bas. Il est parti pour un truc d'ego. D'ego, il a voulu, il a joué. Il a voulu faire un bras de fer, il a mis un ultimatum à Florentino Pérez, et Florentino Pérez a dit, bah, tu t'en vas, quoi. Et en fait, le Real a perdu dans cette histoire, mais c'est surtout Ronaldo qui a perdu. Et donc, moi, je sais pas ce qu'en pensent les copains, mais je trouve ça très triste que l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, finisse sa carrière dans des conditions aussi lamentables.
Alors après, cela dit, je pense qu'on aura le temps d'y revenir parce que, enfin, je suis pas sûr que l'affaire elle soit complètement bouclée. Hein,
mais non, mais ils peuvent dire autant qu'ils veulent rester, qu'ils veulent le garder. Et à mon avis, il partira au 31.
Je pense que même Ténard, il va pas vouloir garder un mec qui fait la gueule dans le vestiaire ou si ça se passe mal et si c'est tendu, hein, ça risque d'être d'être compliqué.
Non, mais moi je veux dire, c'est l'image que t'es ça. Normalement, t'es grand, tu regardes là, t'es en train de t'offrir à tout le monde, quoi. Tiens, même avec tout le respect que j'ai pour Naples, qui est un grand club, etc. Mais je veux dire, de même vouloir aller à Naples, je sais pas ce qu'on pense, Johan, si c'est réel ça, parce qu'ils sont en Ligue des Champions et qu'il va pouvoir continuer à ses stats. Donc,
ouais, on a parlé de la Roma parce qu'il y avait Mourinho, etc. Ça, j'ai pas réussi à me le faire confirmer sur l'intérêt de la Roma, j'en suis pas persuadé. Mais
c'est triste de le voir comme ça.
Oui, c'est pas le premier grand joueur qui finit un peu tristement. Alors pas forcément dans ces conditions-là, mais.
Il y a son jeu aussi. Il y a son jeu.
Non, mais c'est ça.
Les équipes sont forcées de s'adapter à comment, la façon dont
ils jouent. Ça a toujours été le problème. C'est compliqué avec le Portugal. C'est compliqué.
Exactement. C'est compliqué avec la Juve. C'est compliqué avec Manchester. Je veux dire, c'est pas un grand défenseur qui débarque. Oh, voilà, tu le mets là. Le mec, il peut tenir chez 40 ans. C'est pas un récupérateur. Là, il a un jeu particulier, Ronaldo. Et tout le monde doit s'adapter à lui. Donc. Voilà, c'est
et ça va pas dans le sens de l'histoire, en plus, Polo. C'est aujourd'hui, c'est les clubs cherchent des joueurs qui sont malléables et plus des joueurs autour de qui il faut construire des systèmes, etc.
Complètement d'accord.
Voilà, sera à suivre. On rappelle un Manchester United qui recevra Liverpool le week-end prochain. Autre équipe en crise en Allemagne cette fois-ci, c'est le Bayer Leverkusen. Alors il y a une élimination en Coupe d'Allemagne pour débuter la saison face à une Détroit et deuxième défaite en boulie ce week-end face à Augsbourg. Qu'est-ce qui se passe avec le Bayer Leverkusen, Polo, là?
Alors c'est très intéressant parce que Leverkusen, si tu veux, avant la saison, a fait beaucoup de belles déclarations comme quoi la Coupe d'Allemagne était un objectif prioritaire, éliminé par une Dritte Liga. L'objectif, c'était de se rapprocher, peut-être pas du Bayern, mais au moins du Borussia Dortmund, et ils sont derniers du classement après 2 journées. Ce qui est très intéressant, c'est en Allemagne, on parle de torphobie, de la phobie du but. L'année dernière, Leverkusen avait mis 80 buts, tu vois. Cette année, ils ont, je vais te citer Fernando Cairo, qui est un Espagnol, qui est le président du Bayer Leverkusen, évidemment ancien salarié très haut dirigeant de la multinationale Bayer, qui dit qu'est-ce que tu veux que je te dise de cette rencontre, on a des milliers d'occasions, on n'est pas capable d'en foutre une au fond. Il se fait que le gardien d'Augsbourg, Gikiewicz, a peut-être fait son meilleur match de Bundesliga, donc a arrêté un peu tout, mais c'est quand même intéressant de voir que Patrick Schick, il n'en plante pas un alors qu'il a les occasions, que Diaby, lorsqu'il se retrouve devant le gardien, pareil, il trouve le moyen de tirer sur le gardien plutôt que de marquer. Il manque aussi quand même certains joueurs pour expliquer ce qui se passe au Bayer Leverkusen. Quand même, rappelons que le petit prodige Wirtz est toujours blessé et qu'il faut lui, et que Azmoun, qui est un attaquant, qui joue un attaquant de soutien de Patrick Schick, ça fonctionne pas non plus. Qu'il n'y a pas un Diaby à gauche, ça manque beaucoup. Et tout le côté gauche de Leverkusen ne marque pas, et notamment un ancien parisien que je vais finalement par surnommer le Thomas Meunier, parce que c'est deux anciens du PSG, le Thomas Meunier de Leverkusen, Becker, c'est le néerlandais, c'est dramatique la façon dont il joue, à tel point qu'il est souvent changé et mis en concurrence avec un défenseur central que j'aime beaucoup, Hincapier. Il y a ça qui fonctionne pas, si tu veux. Et puis on est à Leverkusen. Leverkusen, c'est pas le club le plus fou d'Allemagne au niveau du public, c'est-à-dire que là, on est à 3 défaites depuis le début de la saison. C'est historique, jamais Leverkusen n'avait commencé une saison avec 3 défaites. Et c'est le calme plat. C'est le calme plat parce qu'il y a que 23 000 personnes au stade pour un stade de 30 000 places, malgré les investissements qui sont très importants année après année, parce qu'encore une fois, sur le papier, pour moi, Leverkusen est l'un des principaux concurrents au minimum à la seconde place de la Bundesliga, et ça ne fonctionne pas. Ils ont du mal à commencer. C'est-à-dire qu'ils se prennent des buts à chaque fois en début, comme si c'était un petit peu une forme d'embourgeoisement. Ils se prennent des buts à chaque fois en début de rencontre. Donc ils doivent toujours courir avec le score. Ils n'arrivent pas à marquer alors qu'ils ont des tonnes d'occasions. Et défensivement, c'est toujours aussi fragile parce que l'année dernière c'était délicat. Donc ça, c'est un équilibre à trouver. Et je rappelle encore une fois que t'as le droit d'avoir une bonne défense centrale quand t'as Jonathan Tah, Tapsoba, Inkapié, Kosunou, etc. Voilà, c'est un peu compliqué ce qui se passe. Mais moi, ce qui me frappe encore une fois, c'est que c'est l'histoire de Leverkusen, c'est que c'est le calme olympien, quoi. Imagine le Bayern commencer une saison avec deux défaites ou à Dortmund avec deux défaites.
C'est Leverkusen. Hein.
Ouais, voilà. Polo, tu sais que je suis beaucoup ce club, que j'aime beaucoup. Les périodes fortes récentes, ou plus ou moins récentes, on va dire depuis 2000 avec cette équipe-là, évidemment qu'il y a beaucoup de jeunes, que le scouting, ça fait partie de leur ADN, et c'est très bien, le jeunisme, etc. Mais c'était toujours encadré par des vrais leaders, c'est-à-dire la fameuse équipe de 2002, t'avais Schneider, ouais. T'avais Novotny, t'avais Ulf Kirsten, ensuite un peu plus tard t'as eu Simon Rolfes, Stefan Kisling, Lars Bentner, etc. Sauf que là aujourd'hui, depuis 2-3 ans, je regarde qui sont censés être les cadres un peu plus expérimentés de cette équipe-là. on est loin du compte, hein.
On est loin du compte, ça c'est vrai, mais c'est la nouvelle politique. Ça fait quelques années, ils ont décidé de réduire, alors sans revenir à 2002 parce que la politique est très différente. C'est en fait, encore une fois, c'est plus du marketing aujourd'hui Leverkusen que du football. C'est-à-dire que on offre, encore une fois, je l'avais expliqué quelques fois, c'est que la multinationale Bayer souhaite un jeu attractif sur le terrain, et deux, qu'il y ait des jeunes sur le terrain, parce que ça permet de mettre ça en publicité en disant, regardez, on offre un avenir aux jeunes de ce pays. Donc c'est ça ce qu'on donne à Leverkusen. Donc tu t'éclates tout le temps. Tu étais là pour jouer, etc. Mais c'est vrai que ça pose une question. Et puis, au-delà de ça, Leverkusen était encore, il y a quelques années, souvent en huitième de finaliste de Ligue des Champions. Je pense que Fred se rappelle le match contre l'Atlético de Madrid qui s'était fini au pénalty et qui était à l'époque avec Roger Schmidt. Il y a eu 1-0 à l'aller, 1-0 au retour. Ça s'était joué au pénalty. Et ça se trouve, ça aurait été l'apothéose d'une génération à Leverkusen. Et finalement, ils ont perdu cette deuxième place, entre guillemets, derrière le Bayern. Ils ont du mal à confirmer, mais il y a aussi le fait que il y aura jamais de révolution à Leverkusen, et ça veut dire que c'est le club, c'est les supporters, il y en a presque pas entre guillemets par rapport évidemment à la norme allemande, et ça veut dire que c'est à l'intérieur du club que ça doit se passer, que le groupe doit faire évoluer. Il y a beaucoup d'étrangers, c'est pas une critique ce que je dis, mais ça c'est par rapport à ce que dit Johan qui est très vrai, c'est-à-dire que il y avait quand même beaucoup d'internationaux allemands avant qui étaient à Leverkusen, qui étaient là, on rajoutait les Brésiliens, etc., pas n'importe lesquels d'ailleurs, mais là si tu veux, c'est vrai que ce jeunisme fait que sur le papier, c'est bien. Ouais. Il va falloir le prouver.
Messieurs,
je veux simplement dire rapidement que je me souviens très bien de ce match entre l'Atlético et le Bayer Leverkusen, les pénaltys, parce que c'est à l'issue de cette rencontre
que tu les as tirés.
Non. Est né le fameux quelle est la meilleure Liga du monde, la Liga espagnole.
C'était ce soir. Ça a valu des t-shirts, effectivement, tout ça. Petit détour par Robert Diochon, Christophe Lécuyer, Quevilly Rouen Saint-Etienne. Dernière affiche de la deuxième journée de Ligue 2, mon cher Christophe.
Et on approche de la demi-heure de jeu ici dans un Diochon plein comme un neuf. On le rappelle ce soir, match à guichet fermé, toujours 1-0 pour QRM depuis la 13e minute. Et ce but signé Boykan des Stéphanois, un petit peu emprunté, même s'ils ont bien failli égaliser tout à l'heure avec Cafaro qui s'est heurté à le maître impérial dans les buts de cette équipe de QRM pour préserver ce score d'un but à zéro. Donc pour QRM face à Saint-Etienne, on joue la demi-heure de jeu.
Alors il reste 4 minutes à jouer entre Retafe et l'Atlético. L'Atlético mène 3-0 avec notamment un but de Griezmann. Tout à l'heure, il y a eu 0-0 entre l'Atlético Bilbao et Mallorca. Le Napoli s'est imposé 5-2 face à l'Hellas Vérone. Et puis une demi-heure de jeu entre la Juve et Sassuolo. Et Johan.
Ouais, but d'Angel Di Maria. Reprise totalement topée qui lobe contre Silly.
Il n'a pas fait exprès.
Il fait la reprise, mais si tu veux, elle rebondit sur la terre avant de lober le gardien. Donc c'est un peu écrasé.
C'est beau ça l'entraînement.
Mais dans le jeu, c'est compliqué la Juve encore. Hein.
Les drôles de dames reviennent dans quelques instants et on va évoquer le Real Madrid qui avait remporté la Super Coupe d'Europe, qui a galéré ce week-end quand même face à un promu Almeria, avec notamment un joueur dont tu parleras aussi, mon cher Polo, c'est Alaba, dont l'adaptation est bien bluff. Notre Fred Hermel, à tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
21h16, vous êtes sur RMC dans l'After avec nos drôles de dames. On a évoqué plusieurs crises il y a quelques instants, celle de Manchester United, celle du Barça également. Et puis celle il y a quelques instants aussi, on a fait qui? Ah bah oui, le Bayer Leverkusen bien entendu. Tiens, juste avant de poursuivre et d'évoquer le Real Madrid, on retourne du côté de Robert Diochon, retrouver Christophe Lécuyer. Ça bouge encore entre Quevilleron et Saint-Etienne,
hein. Et avec le, ouais, avec le deuxième but pour cette équipe de QRM, ils sont intenables les Normands ce soir. Le centre parfait côté droit, c'est Garante Gébélé qui vient mettre sa tête et tombe et tromper Etienne Green. C'est pas illogique tant les joueurs de QRM ont la maîtrise, hein, sur cette partie. Je vous le disais sur la précédente intervention, les sentaient empruntés les joueurs de Laurent Batless. Ils confirment pour l'instant leur début de saison relativement compliqué. 33 minutes de jeu ici au stade Robert Diochon et QRM qui compte deux buts d'avance désormais, 2-0 face à Saint-Etienne.
Mais on rappelle les Verts, hein, c'est avant ce match c'est une défaite et un match nul, hein.
On a le droit de dire que Saint-Etienne c'est pire que Manchester United?
Non, parce qu'ils sont pas derniers. Non, ils sont pas derniers encore. Ah, mais bon, ils sont en Ligue 2.
C'est assez lamentable.
Si, ils sont derniers, ils ont moins 2 points.
Oui, mais ils ont un point.
Ils ont commencé avec moins 3.
Ah, t'as raison, effectivement, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, tu as raison, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est pire, oui.
Ils sont négatifs, alors.
Mathématiquement, c'est bon.
Au moins, ils sont à 0.
Ouais, c'est pas 18 minutes de jeu également à Anfield et 0-0 pour l'instant entre Liverpool et Crystal Palace. Un petit mot quand même sur le Real Madrid, Fredo, alors qu'il avait remporté la Super Coupe d'Europe il y a quelques jours.
C'était assez facilement d'ailleurs, j'avais été un peu déçu par.
Ouais, par Lineart. Ouais. Et qui a lutté.
C'est la faute à Kamada.
Comment, Apollo?
C'est la faute à Kamada. Il a son occasion.
Ouais,
mais après tu sais, le Real t'as quand même montré que tu peux leur marquer 3 buts et t'en mettre 4 quand même, hein, mais
alors c'est à dire
c'était un match très bien géré,
hier ils ont été dans la réaction aussi face à Almeria, ils ont été menés 1-0 assez longtemps et comme en Super Coupe Alaba était décisif, il avait marqué, hein, face à l'Eintracht le premier but. Hier il a marqué encore le but de la victoire.
Alors c'est un truc hallucinant ce qui s'est passé avec David Alaba. Il rentre à un partout, en fait il y a coup franc, ça fait un partout. Il rentre comme latéral gauche à la place de Mendy. Mais il rentre, Ancelotti le fait rentrer au moment du coup franc. Donc, il ne touche le ballon, son premier ballon, c'est avec ses mains.
À l'américaine, quoi.
Mais non, mais la main pour placer la balle. Et là, mon gars, il te place un coup franc dans la lucarne avec le ballon qui lèche le poteau intérieur des buts d'Almeria. Imparable pour un gardien qui avait été excellent, Fernando, pendant tout le match. Non, mais ça a été hallucinant. Alors, pourquoi je voulais parler d'Alaba, c'est que déjà là, il marque le premier but contre l'Inter en Supercoupe d'Espagne, c'est pas rien. Là, il met le but de la victoire. Mais mec, c'est sans rien quoi. Le premier ballon qu'il touche avec le pied, c'est pour le mettre dans la lucarne. C'est extraordinaire. Mais surtout, moi je suis le Real depuis plus de 30 ans. Je n'ai jamais vu, je dis bien, une intégration aussi réussie dans une équipe et dans un club. Dans une équipe, c'est-à-dire d'un point de vue purement sportif, où, du deuxième match, il était déjà performant. C'est-à-dire que, aujourd'hui, plus personne en Espagne ne parle de la charnière Ramos-Varane, quand même. Enfin, ça n'existe plus, quoi. La charnière avec Militao et Alaba, elle est championne d'Espagne, elle est championne d'Europe. Mais surtout, dans l'esprit, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a compris tout de suite ce qu'était le Real Madrid. Bon. Il a fait
plus de 400 matchs au Bayern.
Voilà. Parce que c'était un grand club avec avec une tradition, etc. Il savait quoi. Mais la manière dont il a senti
bien la façon dont Fred parle du Bayern. Un grand club comme ça. C'est juste le numéro 2 historiquement du football européen.
Mais après
donc, c'est pas un grand club comme ça, tu vois. Puis en plus, je suis quand même surpris qu'en Espagne, où il y a des grands défenseurs, vous alliez chercher un défenseur central en Bundesliga où ils savent pas défendre. C'est quand même super exponent quand même.
Il y a dit ça lors de la première heure.
Je sais pas qui sont les couillons quand même, parce que c'est bizarre.
N'empêche qu'ils sont tellement forts au Bayern que les Muratos.
Ça c'est la faute du Bayern, autre chose.
Donc Alaba en fait, et il s'est passé un événement lors de la remontada contre le PSG en 8e de finale retour.
On n'est pas loin d'avoir un Tourelle versus Conte.
C'est deux skis aussi, donc ça va.
On est
moi j'assume
des schizophrènes.
Mon côté schizophrène.
Ah, d'accord. Donc, en fait,
voilà, attends, Mopolo, petit message d'espoir pour Mopolo, Christophe Lécuyer, Quevilleron Saint-Etienne.
Ouais, on n'arrête plus les buteurs. Ici, la réduction de l'écart de Jean-Philippe Crasso, réduction de l'écart. L'AS Saint-Etienne, il réussit son petit numéro technique dans la surface de réparation. La frappe à terre qui trompe Nicolas Lemaître, qui avait été jusqu'à présent impérial. Saint-Etienne se relance dans cette partie au bon moment, hein, parce que je peux vous dire qu'on surveillait les 400 supporters. Il est très joli. Il y a un petit numéro technique au départ. Beaucoup de maîtrise, en tout cas, dans la finition. Et le gardien de QRM qui est battu au moment où les Magic Fans, là-bas, les supporters de Saint-Etienne, qui commençaient à scander des directions d'émission. Ça commençait à chauffer dans la tribune des supporters stéphanois. Autant dire que ce but, eh bien, il redonne de l'espoir et aux joueurs et aux supporters stéphanois. 2-1 toujours pour QRM. Il reste un petit peu moins de 8 minutes à jouer dans cette première période.
Ouais, donc je disais, outre l'intégration sportive qui a été fulgurante et magnifique avec des titres importants en fin de saison et puis un début de saison tonitruant de David Alaba, lors de la remontada contre le PSG en huitième de finale retour de Ligue des Champions Bernabéu, à la fin ils sont comme des fous, hein, ils sont super contents, et Alaba prend une chaise en plastique, vous savez les chaises des stadiers, ouais. Ils sont tout en bas, il prend une chaise, donc une chaise pliante en plastique, vraiment elle a rien de particulier, et il la lève au ciel. Et en fait, il y a un cliché très beau de la presse espagnole. Enfin, il y a plusieurs clichés, etc. Et l'image fait le tour de l'Espagne. Et c'est devenu un symbole. C'est-à-dire que même sur les réseaux sociaux du Real Madrid, on utilise la chaise. C'est-à-dire qu'il est rentré par un geste et parce qu'il est sympa, parce qu'il est souriant et parce qu'il est bon dans le foot, enfin, d'un point de vue purement sportif. Et qu'en plus, il y a eu ce détail-là. Aujourd'hui, il y a une légende autour d'Alaba et de sa chaise. Non mais je vous jure, je vous promets, regardez, vous reverrez, si L'Oréal fait encore une belle campagne européenne, vous verrez Alaba brandir une chaise. Si vous ne croyez pas, regardez sur les réseaux sociaux.
Et s'il la prend pas, on l'appellera sans chaise, non ?
Oh, bon, non. Ce qui pour l'Espagne, c'est pas mal. Non mais alors pour ceux qui ne le croient pas, regardez sur Google, vous faites Alaba Silla, S-I-2-L-A, la chaise, et vous verrez des tonnes de photos.
On dit Silla en espagnol,
Silla. Silla, Silla. Et donc en fait, Alaba aujourd'hui, qui a priori n'était pas un type, c'est pas Joaquin, c'était pas un type très rigolo, et ben si, il est très rigolo. Tiens. Et il est vraiment. Alors.
D'où tu dis, bah,
on savait pas qu'il était rigolo.
Ne dis pas, on savait pas. Alors, ne dis pas, à la base, il est pas rigolo.
Je prie les admirateurs d'Alaba de bien me vouloir m'excuser. Nous ne savions pas en Espagne, voilà, qu'Alaba, outre être un immense joueur, était un type très drôle. Voilà. Mais en tout cas, non, mais son intégration, elle est géniale. Donc regardez bien Google. Alors, Sia.
Polo, juste quand même, est-ce que toi, t'es surpris par l'intégration d'Alaba, parce que dit Fredo notamment?
Tu peux la trouver surprenante dans le sens où c'est pas un défenseur central de formation et que même si ça faisait quelques années qu'il jouait central au Bayern Munich, que quand tu es pas t'as pas forcément les réflexes lorsque tu n'es pas un défenseur central de formation. J'ai vu le Real parfois encaisser des buts parce que il savait pas défendre, parce qu'il avait pas le réflexe. C'est un latéral au départ, même s'il avait été prêté lorsqu'il avait 17 ans à Hoffenheim et qu'on le faisait jouer en 6 et que son volume de jeu était déjà impressionnant. Son pied gauche aussi fait partie de sa palette, mais moi, si tu veux, ce qui m'a frappé toujours chez lui, c'est qu'il s'est jamais défini comme un Autrichien, par exemple. Il s'est toujours défini comme un Viennois de la ville de Vienne, tu vois, parce que son père l'a forcé à être extrait. Son père était un musicien bien connu et l'a forcé à être extrêmement rigoureux tout au long de sa vie, etc., pour atteindre ses objectifs. Et moi, j'aime beaucoup ce discours. Le gars, il se définit pas comme autrichien, mais je suis de Vienne. Et ça, c'est autre chose. Et donc, ça me surprend pas. Bah, déjà, je parle sous le contrôle de Fred. La saison passée a été un petit peu spéciale en Ligue des Champions, extraordinaire pour l'épopée du Real Madrid, mais je suis toujours pas aujourd'hui persuadé que c'était la meilleure équipe l'année dernière sur le plateau.
Mais surtout ils ont le droit de gagner. Septième ou huitième équipe européenne.
Ils ont le droit de gagner, c'est pas interdit.
Ils ont l'habitude, surtout.
Ils ont le droit de gagner, c'est pas interdit et il faut les féliciter pour ça. Je suis un petit peu surpris dans le sens où l'équipe, elle est chaque année, il n'y a pas fondamentalement de nouveaux joueurs et elle est vieillissante théoriquement. Mais peut-être que le Real est en train d'inventer un nouveau type de football, c'est que c'est les vieux qui ont toujours raison, quoi.
Alors même
il y a quand même beaucoup de recrues.
Notamment une dont il faut que tu parles, c'est Tchouaméni qui a été titulaire pour la première fois hier, hein, face à Almeria.
Ouais, il a pas été bon.
Ah ouais.
Il a pas été bon. D'ailleurs, il y a un changement à la mi-temps, alors que le Real est mené. Il faut faire entrer Modric et finalement c'est Camavinga qui sort à la mi-temps. Mais je pense que Carlo l'a fait, Ancelotti, pour protéger Tchouaméni, parce que tu fais c'est ta première titularisation au Real Madrid, on te change à la mi-temps, donc on te montre un petit peu du doigt. Je pense qu'il a voulu le préserver un petit peu, quoi, et il a pas été bon. Il a perdu des balles, on sent encore un peu nerveux. Après, il vient d'arriver, hein, c'est pas très grave. Mais ce qu'on voit en tout cas au Real Madrid, c'est que contrairement à la saison dernière, c'est que là il y a un vrai banc. À part le poste de Benzema où la doublure en fait c'est Hazard en faux numéro 9, tous les postes sont vraiment bien doublés. Et ça, c'est le grand changement. Et d'ailleurs, Carlo Ancelotti l'a annoncé lui-même, disant je vais faire plus de rotation, de turnover que la saison précédente. Après, hier, avec une équipe qui avait été bien remaniée par rapport à la Supercoupe d'Espagne, la Supercoupe d'Europe, on a vu que c'était un peu plus dur. Quand il n'y a pas Modric sur le terrain, c'est un petit peu plus dur. Quoi. Voilà, donc le Real Madrid aujourd'hui a bien démarré la saison avec deux victoires, hein, celle en Supercoupe et celle en Liga. Mais bon, on va voir si toutes ces recrues sont capables de suppléer les titulaires ou si finalement on va revenir avec l'équipe qu'on voit depuis de nombreuses années. Quoi. Un petit mot, j'étais le premier à critiquer la Liga la saison dernière, surtout sur les matchs allés, où on s'était vraiment fait chier. Il n'y a qu'une journée, mais on a vu de très bons matchs.
On a encore le temps de se faire chier.
Oui, mais enfin, ça démarre bien. Ouais. Et le niveau d'Almeria, c'est-à-dire que si vous regardez le football européen, tout ce qu'on veut, la Liga est moins forte qu'avant, etc. Mais quand vous voyez le niveau technique d'une équipe qui vient de passer 7 ans en deuxième division et qui vient de monter face au Real Madrid, champion d'Europe, il y a encore des bons joueurs en Espagne, quoi. Franchement, les gens étaient un peu surpris, mais le niveau technique d'Almeria montre que la Liga a encore des choses à dire.
Et ben, en PL aussi, on va en parler dans quelques instants avec Julien Laurence, notamment deux joueurs qui s'adaptent à merveille, Gabriel Jesus et Hollande. Juste avant ça, deuxième but pour la Juve face à Sassuolo. On est à une minute de la pause, Johan.
But de Vlahović sur penalty, qu'il a lui-même d'ailleurs obtenu. Frappé plein axe et, la construction du jeu, c'était un long ballon sur Vlahović et puis débrouille-toi dos au but.
Ça joue toujours aussi bien à la Juve, hein.
Ouais, c'est formidable. Enfin, là, les 40 premières minutes face à un Sassuolo où il manque à peu près 5 titulaires, où il y a un défenseur latéral comme ailier, etc., etc., c'est pas bon. Après, on va pas dire que je suis surpris, hein. Mais après, c'est un premier match, on va attendre encore un peu. Mais honnêtement, c'est pas très rassurant ce que je vois dans le jeu, hein, parce que mener 2-0 à la mi-temps, c'est très bien. Hein. Mais bon.
Julien, je sais pas si t'as un œil sur Liverpool Palace, on approche de la demi-heure de jeu, toujours 0-0, c'est comment?
Ouais, toujours 0-0, Patrick Vieira avec une défense à 5, pour aller à Anfield, un petit peu contre ses préceptes de jeu. Il y a un coup franc excentré là pour Palace, mais sinon c'est Liverpool qui a le plus le ballon, qui met la pression. On a vu Mo Salah avec une belle occasion où il a frappé juste à côté. On a vu quelques mouvements assez dangereux, mais pour l'instant, ça manque un petit peu de précision devant le but.
Et puis, Quevilly-Rouen Saint-Etienne, on suit ça. Robert Diochon avec Christophe Lécuyer. Toi, t'as des buts un soir, Christophe.
Ouais, on s'ennuie pas, 2-1 effectivement pour QRM face à la Saint-Etienne, et on a bien failli assister à l'égalisation stéphanoise avec un très bon travail au départ de Jean-Philippe Crasso. Ça a profité à Madi Camara qui a marqué dans le but vide, mais il y avait au départ une position de hors-jeu sanctionnée par l'arbitre. Il reste 20 secondes à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. Alors non seulement on s'ennuie pas parce qu'il y a des buts, mais on s'ennuie pas parce que ça joue ce soir, et ça joue très bien. Et des deux côtés avec les Stéphanois là justement qui vont peut-être pouvoir partir en contre-attaque avec Giroudon sur le côté droit, un bon centre. Ballon qui est mis dans la surface de réparation. QRM qui a du mal à se dégager. La reprise, et la voilà, l'égalisation pour la Saint-Etienne. Je vous disais qu'on la sentait venir, que les Stéphanois allaient beaucoup mieux dans cette fin première période. Et ça fait deux buts partout, et pourtant ils reviennent de loin. Ils reviennent de très loin, les joueurs de Laurent Batless. On rappelle qu'ils étaient menés 2-0 avec une entame de match complètement cauchemardesque. Et puis ils ont réussi à revenir dans un premier temps par Crasso tout à l'heure. Et l'égalisation donc signée Mathieu Cafaro. Ça fait deux buts partout ici, c'est la mi-temps. Mi-temps sifflé à l'instant même par monsieur Alexandre Péronil. Et bien voilà, le but il est marqué au meilleur des moments pour les joueurs de l'AS Saint-Etienne. Deux buts partout ici au stade Robert Diochon. C'est la mi-temps entre QRM et Saint-Etienne.
Ouais, deux beaux buts, hein, pour les Verts. Merci beaucoup, Christophe. On se retrouvera pour la deuxième période dans un instant. Avec Julien Laurence, on va évoquer deux recrues qui s'adaptent à merveille dans leur nouveau club, Gabriel Jesus Arsenal et Erling Haaland du côté de Manchester City. A tout de suite dans l'After.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
21h34, vous êtes dans l'After sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit avec les drôles de dames jusqu'à 22h. On va partir du côté de l'Angleterre, retrouver Julien Laurence. On va évoquer deux joueurs, alors qui vivent une adaptation extraordinaire. On a beaucoup parlé de clubs en crise, hein, sur les mecs. Voilà, j'ai envie qu'on finisse sur une bonne note. Encore que c'est pas sûr, parce qu'on va parler de trucs qui vont être bien chelous, bien relous dans quelques instants. Il y a deux joueurs, hein, pour qui l'adaptation se passe à merveille dans leur nouveau club, Julien. C'est Gabriel Jesus à Arsenal et Erling Haaland à Manchester City. Même si c'est deux attaquants, c'est dans deux styles différents, hein, cela dit, hein.
Ouais, c'est vrai. Alors juste avant ça, l'ouverture du score pour Crystal Palace à Liverpool, Wilfried Zaha en contre-attaque, quel assez joueur, incroyable. On avait dit un Liverpool, je vous l'avais dit tout à l'heure, Liverpool qui avait beaucoup le ballon, qui était le forcément le plus dangereux dans cette rencontre-là, mais qui manquait de pression devant le but, et ils se sont fait prendre en contre sur un contre d'école, Patrick Vieira qui célébrait le but de Zaha, donc 1-0, et après 35 minutes de jeu, et Klopp qui est pas content du tout sur le bord de la touche. Oui, Gabriel Jesus, alors on va commencer par lui parce que c'est vraiment la star du week-end. Un match juste incroyable contre Leicester samedi à l'Emirates. Deux buts, deux passes d'aise. Un premier but fantastique pour ceux qui l'ont pas vu. Sans élan, intérieur du pied, qui lobe le gardien. Assez incroyable. Mais en fait, tout ce qu'il a fait dans la rencontre, il aurait pu finir avec quatre buts et quatre passes d'aise limite. Tellement il a été dangereux, il a pressé, il a couru beaucoup, il a été physique, il a fait des fautes, il s'est arraché, il a été omniprésent vraiment dans tous les secteurs du jeu, dans la construction des actions, à la finition, vraiment partout, de le voir comme ça, c'est vraiment un pur plaisir et c'est vrai qu'il a été injouable.
Et ceux qui sont injouables, donc c'est également Gabriel Jesus et Erling Haaland, Julien.
Alors Jésus, je viens d'en parler, pour Erling Haaland, c'est vrai que le constat est un petit peu différent parce qu'on l'a vu très bon contre West Ham le week-end précédent avec ses deux buts. C'est vrai qu'il a, là, lui aussi avait été injouable. Contre Bournemouth samedi, ça a été plus compliqué dans le sens où, et on va regarder les stats, et il faut pas toujours se fier aux stats bien sûr, et d'ailleurs il fait une passe d'aise, mais il fait deux passes dans la rencontre, c'est-à-dire qu'il
c'est fou,
dans
ça.
La rencontre il y a deux passes, il réussit deux passes, donc la première c'est le coup d'envoi et la deuxième c'est la passe d'aise pour Gundogan. Sinon il y a aucune passe, quoi. Il fait pas de passe. Il touche le ballon 8 fois dans la rencontre, donc une fois sur le coup d'envoi, une fois sur la passe d'aise, et sinon il y a 6 autres fois où il touche le ballon. Mais voilà. Et moi je sais pas assez. Et Foden qui l'oublie. Donc ça c'est le voilà. Foden c'est la grande discussion du week-end parce que Foden à un moment il y a un très bon ballon de De Bruyne, je crois, et il est dans la surface et il frappe et la frappe est déviée par le gardien de traverse, le gardien de Bournemouth, alors que Haaland est tout seul dans l'axe. Et il fait pas le centre, il doit centrer, il fait pas le centre, Foden. Et après le match, Guardiola, ce qui était très intéressant d'ailleurs, explique que vu que c'est une équipe qui a joué pendant si longtemps sans vrai numéro 9, sans pur numéro 9, ils ont finalement pas l'habitude qu'il y ait un numéro 9 dans cette position-là, à ce moment-là, dans une action pareille.
Ils l'ont cru.
Ouais, non, mais c'est, heureusement qu'ils l'ont cru parce que c'est la vérité. Mais surtout, Guardiola a dit lui-même, il faut que maintenant, ces joueurs-là, les Foden, les Bernardo Silva, les De Bruyne, se disent dans leur tête que maintenant, il y aura quelqu'un dans cette position-là. Et donc, il faut centrer au lieu de frapper. Avant, ils auraient tous frappé et c'était la chose à faire parce qu'il n'y aurait eu personne dans l'axe. Maintenant, il y aura quelqu'un dans l'axe. Et donc, parfois, il faudra frapper, parfois, il faudra.
C'est vrai que les habitudes vont changer.
Ouais,
forcément.
Julien a raison.
Les joueurs ne lèvent pas la tête des fois. Enfin,
Julien a raison, mais ce qui est intéressant, c'est la réaction du cyborg norvégien. Il s'énerve. Il s'énerve tout de suite. Et moi, on en avait parlé avec Julien l'année dernière. Le problème du Norvégien, c'est un monstre, hein. C'est un vrai monstre. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte le
niveau de jeu. Non, mais même ses stats, les stats que je viens de donner, c'est monstrueux. Tu touches le ballon, tu mets deux buts.
En plus, il donne pas la passe comme ça. Il embarque trois défenseurs de mémoire, avec lui pour faire la passe à Gundogan. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tous les efforts qu'il fait, la contrepartie, c'est que quand tu as des ailiers ou des mecs qui doivent lui passer la balle, faut lui passer la balle. Parce que sinon, il la fera plus au bout d'un moment. Et ça, l'année dernière, c'est ce que je disais à Julien quand on discutait. Les efforts qu'il fait, parce qu'il les fait aussi défensivement, etc., même si City domine largement territorialement au niveau de la possession et tout ça, le prix à payer, entre guillemets, c'est que lorsqu'il est mieux placé et il est placé pour marquer, t'as intérêt à lui faire la passe, quoi. Parce que ça va pas durer des mois comme ça.
Alors, moi, j'ai une question à poser Julien, je voulais te poser une question.
Non, vas-y.
Simplement parce que on sait le discours. C'est les équipes de Guardiola sur la place, sur le nombre de passes qui sont, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas peine de le répéter. Donc là, il y a un mec qui a touché 6 fois le ballon, c'est ça ?
8.
8 fois le ballon et qui a fait 2 passes. Ouais. Ça va être passionnant, passionnant d'étudier l'intégration de ce mec dans une logique de jeu qui est pas du tout celle-là, quand même.
Ah, mais alors, la grande différence, c'est que la saison dernière, par exemple, quand Lukaku et Chelsea vont à Crystal Palace, Lukaku touche 16 fois le ballon. Dans cette rencontre-là, et il se fait, et c'est vrai, et il est complètement transparent dans la rencontre. La grande différence avec Haaland, bon, il y a la passe d'aise, bien sûr, pour Gundogan, qui est d'ailleurs, Polo, une passe d'aise vachement intéressante, parce que c'est pas une passe d'aise qu'il fait habituellement.
Exactement.
Parce qu'il est dos au but, il joue de son corps, et il fait le 1-2 avec Gundogan, mais il le met très bien, bon, parfait. Mais sans Haaland, je pense que De Bruyne marque pas son but à lui, parce
Exactement.
Que c'est l'appel d'Haaland qui finalement écarte, on va dire, les deux défenseurs pour laisser la place à De Bruyne. Après, c'est un but magnifique de De Bruyne, extérieur pied droit. Mais en fait, ce que Guardiola essaie d'expliquer hier, c'est que d'accord, on va se focaliser sur les 8 ballons touchés, parce que forcément, c'est pas beaucoup en 74 minutes. Deux passes réussies, enfin, deux passes tentées, deux passes réussies en 74 minutes, quand une équipe qui a 67% de possession de balle, c'est pas beaucoup non plus. Mais Guardiola expliquait, mais son jeu il est ailleurs finalement. Et bien sûr que lui aussi, je pense qu'il aimerait toucher le plus de ballons. N'importe qui joue au foot à n'importe quel niveau veut toucher le ballon, c'est logique, avoir plus d'occasions, etc., etc. Mais Guardiola expliquait, à juste titre d'ailleurs, que finalement il fait tellement d'autres choses positives pour l'équipe que bien sûr que c'est important qu'il touche beaucoup le ballon, et plus il touchera le ballon, et plus ils seront dangereux, et plus ils seront forts, et bien sûr, mais qu'il fait aussi de plein de bonnes choses sans avoir à toucher le ballon.
Voilà, c'est intéressant. Juste un mot également, Julien, on en est où dans le dossier Bernardo Silva là ? Alors ça te concerne aussi Fredo, puisque le Barça ouais, le veut, là pourtant on parle même ouvertement d'ailleurs.
Alors, c'est intéressant encore une fois, parce que lui, quand on lui pose la question en interview par exemple, il dit qu'il serait très content de rester, et que s'il devait pas rester, ben il remercierait le club et qu'il serait très content. Ben, voilà, il laisse toutes les portes ouvertes. Forcément, il va pas se fâcher avec City.
Alors, il a même dit dans une récente interview là, il y a quelques jours, je serais très content si je reste, mais le club c'est ce que je veux. Voilà, enfin ça veut tout dire.
C'est ça. Ouais. Il a dit ça à ESPN effectivement. Alors tout le monde pense qu'il veut partir, qu'il veut aller au Barça, qu'il veut aller en Espagne. Qu'à un moment, ses relations avec Guardiola n'ont pas non plus toujours été au beau fixe. Rappelez-vous l'année dernière,
il voulait partir.
C'est surtout eux qui voulaient le vendre, plus que lui qui voulait partir vraiment. Donc, je pense qu'il a un petit peu mal vécu à l'époque. Donc, c'est toujours là. Après, moi, je sais pas. On a parlé du Barça tout à l'heure. Je sais pas s'ils peuvent rajouter encore 60 millions d'euros pour aller chercher Bernardo Silva.
Un nouveau levier. Mais, t'inquiète, il y a toujours bien un truc à vendre.
Il reste quoi à vendre, ouais.
Il y a beaucoup de choses.
Tu donnes un bifton.
Il y a vraiment une offre. Oui, tu t'arranges. S'il y a vraiment une offre pareille, je pense que parce qu'en fait Guardiola veut pas le garder s'il veut pas être là. C'est avec Guardiola, on a l'habitude maintenant.
Ouais,
si tu vas le voir et que tu lui dis voilà, moi merci pour tout, j'ai passé 5 années géniales, on a tout gagné en Angleterre, etc. Mais maintenant je veux connaître autre chose. Il te laissera partir, même si ça va lui enlever un joueur extrêmement important qui sera vraiment très compliqué à remplacer. Mais si Bernardo va voir Pep en lui disant écoute, maintenant j'aimerais bien aller voir autre chose, découvrir autre chose, je pense que Pep le laissera partir s'il y a la bonne offre.
Voilà, à suivre, donc on verra ça. Tu y crois, toi, au Barça ou pas,
Je vous rappelle qu'ils n'ont pas pu inscrire Koundé. Hein, parce qu'il y a la question de Sapi Bernardo Silva, c'est un gros salaire.
Ouais.
Donc il y a cette limite, ce plafond salarial qui fait que pour l'instant, c'est pas possible.
D'ailleurs, je crois que De Bruyne a dit aujourd'hui qu'il espérait ou que Bernardo Silva allait rester du côté de City. Ouais. C'est pas lui qui mène les négos, c'est du lobbying, mais bon, on verra ce que ça vaut. On va se faire une petite pause, on va revenir dans quelques instants avec notre dame. On va évoquer un cas qui fait pas mal parler. Alors en Italie, en Allemagne, c'est la diffusion d'Azone. Voilà, il y a pas mal de bugs. Ça fait grosse polémique, notamment hier soir en Italie. Le Bayern était concerné par ça également en Allemagne. Je vous rappelle que c'est la mi-temps en Ligue 2 entre Quevilly-Rouen et Saint-Etienne, deuxième journée de Ligue 2. Deux partout entre les deux équipes, les Verts qui étaient menés 2-0. Et puis Liverpool est toujours mené 1-0 face à Palace à Anfield. On est à 2 minutes de la pause. En Italie, 2-0 pour la Juve à la mi-temps face à Sassuolo. Di Maria notamment a marqué pour la Juve. On revient dans quelques instants avec les drôles de dames et on va parler donc de ces polémiques autour de la diffusion de DAZN. A tout de suite.
RMC, l'After Foot, Nicolas Villas.
En compagnie des drôles de dames, on est ensemble jusqu'à 22h. L'After qui sera là jusqu'à minuit, bien sûr, à partir de 22h. Gilbert Briouat sera là avec Thibault Leplat, avec Walid Acharchon. Grosse page PSG également, Marseille qui vous attend. Supporter du PSG de Marseille, on vous attend d'ores et déjà au 32-16. Avant cela, tiens, petit détour par Robert Diochon d'avoir retrouvé Christophe Lécuyer. C'est reparti entre Quevilly-Rouen et Saint-Etienne, Christophe.
Ouais, ça vient de repartir. Déjà une première situation à ballon chaud dans la surface de réparation stéphanoise, mais le ballon sera capté sans trop de problèmes par Étienne Green. Deux buts partout, hein. On le rappelle, on a assisté vraiment à un très beau spectacle sur cette première période. Début de Boykan et de GBD pour QRM contre début de Crasso et de Cafaro dans le temps additionnel pour Saint-Etienne qui était donc mené 2-0 dans cette rencontre. Deux buts partout ici à Diochon après 48 minutes.
Merci Christophe. On va évoquer l'une des polémiques du week-end en Italie. Ça a été le cas également en Allemagne, hier, la Roma qui a gagné 1-0 face à la Salernitana. Alors, il y a eu des gros problèmes de diffusion, Johan. Ce n'est pas la première fois DAZN qui est le diffuseur. Ouais. Et ça a beaucoup, beaucoup fait parler en Italie.
Tu disais, la Roma a gagné 1-0. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu voir le match.
C'est dommage.
Donc, c'est un peu embêtant. L'année dernière, il y a eu beaucoup de problèmes, lors des 4-5 premières journées de Serie A.
Des problèmes techniques.
Ouais, problèmes techniques d'accès. En fait, DAZN, donc, c'est OTT, donc c'est plateforme digitale que tu peux avoir sur ton téléviseur connecté, tablette, etc., etc. Et en fait, c'était impossible de voir les matchs. Soit c'est un problème de connexion, soit c'était un problème d'erreur, de retransmission, etc. Tu pouvais pas voir les matchs. Soit ça coupait, des fois 60e minute, ça coupait pendant 10 minutes, tu retrouvais le match à la 70e. Ça, c'était l'année dernière. Il y avait eu des gros problèmes. Donc, il y avait eu quand même des demandes de la Ligue assez fermes pour que ça s'arrête. des associations qui protègent les consommateurs aussi en Italie, etc., etc. Donc ça s'était calmé, c'était mieux par la suite, même si de temps en temps il y a encore des petits bugs. Là, ça a commencé très fort. Première journée, il y a eu des soucis sur le match de l'Inter, et là sur le match de la Roma, c'est pas des petits soucis, c'est-à-dire que il y a des gens qui n'ont pas pu voir le match. Et en fait, là, la Ligue, ils ont décidé de frapper assez fort parce qu'ils en ont assez, parce qu'ils estiment, et je pense qu'ils ont raison, que ça dévalue le championnat italien, dans le sens où ça perd de la valeur, et pour l'image, c'est pas bon d'avoir des supporters qui sont pas capables de regarder les matchs.
M'étonne.
Il y a eu donc l'affront des supporters. Il y a eu la Liga, donc la Lega Serie A, pardon, qui menace de faire des actions légales contre DAZN qui diffuse le championnat. On a la sous-secrétaire au sport qui a expliqué qu'elle allait lancer une réunion très rapidement, urgente, pour traiter de ces problèmes-là, parce qu'elle estime que c'est pas correct. On a l'autorité de régulation des télécoms en Italie, qui a fait un communiqué en demandant des comptes à DAZN. Et on a donc DAZN qui, aujourd'hui, un peu en panique, s'est excusé en disant, bah voilà, en fait, il y a trop de gens qui se sont authentifiés sur nos applications en même temps. Mais en fait, tu t'attendais à quoi?
Ils ont pas les bons serveurs, en fait.
En fait, tu t'attendais à quoi? Bah ouais. Oui, les gens se connectent pour voir le match 5 minutes avant. Bah, bien sûr.
Bah.
Donc voilà. La Lega avait mis un ultimatum aujourd'hui à 16h, parce qu'il y a eu des matchs. Donc aujourd'hui, on l'a vu, le Napoli à 18h30 et la Juve ce soir. Ils avaient dit à DAZN, vous avez jusqu'à 16h pour nous présenter un plan en cas de problème encore aujourd'hui. Parce que là, hier, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait, le match passe pas. Ils ont mis un lien en place, tu cliquais sur le lien, ça t'emmenait sur un site de DAZN pour voir le match, etc. Donc là, DAZN a répondu en disant bah voilà, on active avant le match une procédure d'urgence. Si le match plante, c'est hyper rassurant, c'est le diffuseur du championnat, il t'explique ouais. 2 heures avant, si le match plante, voici la procédure pour le regarder quand même.
Ouais. Bon, c'est-à-dire, autant anticiper, hein.
Oui, non, mais très bien. Donc là, on est quand même face à les autorités publiques qui commencent à s'y intéresser, les autorités politiques qui s'y intéressent, la fronde des supporters et DAZN qui a été obligé de dire, bah oui, on va procéder à des remboursements les prochains jours, sachant que les associations de consommateurs, type 60 millions de consommateurs en France, menace aussi de faire des actions légales pour défendre l'intérêt des consommateurs. Donc,
ils ont raison.
C'est très fréquent et là, ça devient vraiment problématique et c'est ce qui était un petit peu attendu aussi. C'est-à-dire qu'ils ont vendu les droits à DAZN, revendus ensuite encore à DAZN à l'appel d'offres successif, malgré des problèmes, etc. Je rappelle qu'ils ont mis quand même 2 ans pour avoir la HD, hein, sur leur truc DAZN. Hein. Donc, c'était pas prêt dès le départ. C'est pas prêt toujours 4 ans ou 5 ans après. C'est pour les prochains pays, les prochains championnats, les prochaines ligues. Je pense que ça peut laisser des questions ouvertes sur le choix de faire un appel 100% OTT.
Alors justement, puisque t'en parles des autres pays, Polo, il y a eu aussi des bugs du côté du Bayern, puisque DAZN est aussi présent en Allemagne. Il y a pas mal de polémiques aussi autour de DAZN.
Alors, vous savez que je suis pas un grand fan de tous ces diffuseurs où on coupe un produit pour faire plus d'argent. On voit ce que ça donne.
Télé-d'État, une seule chaîne, c'était quand même mieux.
écoute, tu te souviens du problème?
C'était Télé Public.
Tu te souviens de problème à l'époque?
On voyait pas beaucoup de matchs.
Moi, je me rappelle pas forcément de. Moi, je veux un seul diffuseur, pas 50, quoi. Et alors, DAZN a le match du vendredi soir plus les matchs du dimanche, et Sky Deutschland a les matchs du samedi. Ce qui est intéressant, si tu veux, il s'est passé exactement la même chose que vient de nous expliquer très très bien Johan, c'est-à-dire qu'il y a eu des déconnexions, en fait. C'est-à-dire que tu commençais à voir le match et d'un seul coup, on t'annonce, je crois qu'on appelle ça des logout. Tu te déconnectes, en fait, comme ça, d'un seul coup, c'est la bécane qui te dit, non, vous êtes pas là. Donc les mecs devaient recommencer à se reconnecter, etc. Et en plus c'était le match du Bayern contre Wolfsburg à 17h30, donc il y avait évidemment du monde. Mais moi, ce que je me rappelle aussi, c'est qu'il y a deux choses. Un, DAZN avant la saison a fait des augmentations tarifaires monstrueuses. Quand je dis monstrueux, c'est en gros 25 à 30% de l'abonnement annuel pour cette saison. Et donc pour les personnes qui vont aller pour les nouveaux abonnés. Et la deuxième chose, c'est que je me rappelle très bien que DAZN était en situation financière compliquée il y a quelques années, et notamment lorsque le Covid est arrivé. Parce qu'il y avait beaucoup moins de recettes. Évidemment, les Allemands, les supporters ont été interdits de se déplacer au stade. Et donc, il y a eu beaucoup moins de personnes qui ont regardé les matchs. Parce que, évidemment, les stades étant remplis en Allemagne, ça fait partie du folklore, etc. Et donc, au-delà du problème technique, je me demande si aujourd'hui, certains diffuseurs, j'ai vécu ça il y a une vingtaine d'années dans la téléphonie, qui sont surendettés parce qu'il faut absolument venir sur le marché, etc., ont véritablement les capacités, en fait, de répondre, comme l'a l'a très bien dit Johan, à le fait que ce produit, tu ne peux pas le dévaloriser. Et j'en suis pas persuadé, je serais pas surpris qu'on apprenne que DAZN fait des économies de bout de chandelle, etc. Et qu'au bout d'un moment, bah, au niveau de la sécurité ou au niveau de l'aérotransmission, bah, on n'a pas mis l'argent dans les investissements là où il fallait.
Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, cette histoire, hein, quand même. Hein.
Ça ah bah, pose pas mal de questions.
Et je suis un fan. Pardon, excuse-moi, Yann. Je pense que j'ai comme Yann, je suis un fan de DAZN.
Oui, oui, il y a des. Franchement, en termes de programme, je trouve qu'il y a de très bonnes choses. En termes de documentaires, tout l'été, ils ont fait des insights dans les clubs en pré-saison, etc., qui sont vraiment de très bonnes factures. La qualité des avant-matchs ou des après-matchs est franchement bonne avec des consultants, des noms qui font pas forcément.
Exactement. Pas trop connus, mais les mecs qui
connaissent
le football.
C'est pas des noms ronflants, mais voilà, mais des mecs plutôt pertinents. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est vraiment techniquement. Et en plus, en Italie, contrairement à la France, on a un problème au niveau des infrastructures. Parce qu'à partir du moment où tu fais ça, le choix de l'OTT, il faut aussi avoir des infrastructures avec du haut débit, avec de la fibre, etc., etc. Alors, DAZN s'était associé à TIM, qui est en gros, pour faire très simple, le Orange italien, pour développer les infrastructures, etc., des plans mis en place, etc., sauf que c'est insuffisant. Et la qualité des infrastructures ou la modernité des infrastructures en Italie est inférieure à la France, par exemple. Ce qui est plus facile à faire en France parce qu'il y a déjà des infrastructures de fibres mises en place, etc.
Alors même si c'est pas toujours facile à mettre en place, on l'a vécu hein, d'ailleurs.
Bien sûr.
Pour être transparent, nous avec RMC Sport, au départ, quand on a lancé également les offres en OTT, ça a été compliqué hein, techniquement aussi. Hein. Ça s'est
mais,
pas
mais
fait
en Italie, hein. ils étaient encore moins prêts entre guillemets.
Après, ouais. Ça pose une vraie question les OTT. Il y a des zones blanches dans tous les pays. C'est-à-dire qu'il y a et en France,
bien
en
sûr,
France, hein, il y a des endroits
alors,
où les gens
un système hein, de TNT sur la télévision avec des canaux dédiés pour ceux qui sont en zone blanche.
Ah d'accord. Ouais. Bah, ça, c'est la question que j'allais te poser justement le truc. Mais après, ça pose quand même des questions d'accès. Je veux dire, c'est vrai que ce découpage, tu vois, cette vente à la découpe de
ouais.
fait que ça revient très cher quoi. Aussi, c'est ça le truc aussi. C'est-à-dire que si tu veux avoir tous les matchs, tu dois payer en Espagne. Je sais plus, ça me coûte 100 balles, un truc comme ça par mois, si tu veux tout avoir, etc. Enfin, c'est une folie, quoi. C'est une folie.
Tiens, ce troisième but de la Juve face à Sassuolo, Vlahovic encore.
Oh, exactement, sur une grosse erreur de relance de Sassuolo. Mais la Juve qui va se mettre en confiance, on va dire ça comme ça. Alors, ça passe pas par le jeu pour l'instant, mais en tout cas, déjà 3-0 au bout de 50 minutes de jeu, même si c'est un Sassuolo plus ou moins bis, entre guillemets, par choix et par obligation. Très sincèrement, pour l'instant, ça roule.
Tiens, je rectifie, hein, tout à l'heure, je parlais, parce que j'ai eu un tweet là sur l'hashtag RMC Live de Slim, qui est supporter du Barça. La vente des droits télé, c'est 10 plus 15. Moi, j'avais dit, c'est 25 plus, voilà, c'est 25 plus 15.
Mais même 25%, tu parlais de 25%, oui, c'est 25%, ouais. C'est un quart.
Ouais.
C'est un quart de tes revenus sur 25 ans qui sont hypothéqués. Enfin, c'est de tes revenus de droits télé. C'est quand on sait que c'est amené à
dans un environnement extrêmement
fluctuant.
Ouais.
On sait s'il y a un minimum garanti d'ailleurs ou pas ?
Non, je ne sais pas.
Parce que si les droits télé baissent pour celui qui a payé 25
ans. Ouais, mais là après, c'est un risque. C'est comme quand tu achètes des actions.
Risque partagé.
Ça. Tu achètes une action si l'entreprise fait moins de bénéfices et que l'action baisse. C'est ton problème.
Cher drôle de dame, merci beaucoup. Voilà, il est déjà 22h. 21h05. Ouais,
voyez-vous.
Merci Johan Crochet, je lance madame Paul Breitner.
L'horaire 20h-22h, moi j'aime bien, on a le temps de
c'est pareil.
Plutôt, c'est penché un peu.
À notre âge avançant, on va pouvoir se coucher tôt.
Tiens, on va aller retrouver Christophe Lécuyer également. Deuxième période qui est repartie depuis 10 minutes déjà entre Quevilly-Rouen et Saint-Étienne, Christophe.
Ouais, c'est ça, 57 minutes de jeu, toujours ce score de 2-2. Je vais pas dire qu'on s'ennuie, mais on a été régalé par les 22 acteurs sur la première période, qu'on s'était habitué à voir des buts toutes les 10 minutes. On rappelle que Boykan et Gbele ont marqué pour QRM, Crasso et Cafaro pour Saint-Etienne, deux équipes qui ont beaucoup de qualité sur le plan offensif, un petit peu moins sur l'aspect défensif. Ça s'est un petit peu fermé, en tout cas, cette seconde période par rapport à ce qu'on a pu voir en première mi-temps. La 58e minute de jeu ici dans ce stade Robert Diochon qui est plein ce soir, donc pour cette belle affiche et toujours ce score de 2-2.
Tu restes avec nous, Christophe, Gilbert Bribois, Thibault Leplat et Walid Acharchour t'attendent, supporters d'OLM et du Paris Saint-Germain. On vous attend au 32-16 également. Merci encore aux drôles de dames, l'after qui se poursuit jusqu'à minuit.
RMC, l'after foot.